Chapitre 5e. Le lendemain de la rencontre d'Olivier Raymond et de Gérald, sa mère, ainsi qu'il l'avait annoncé au neveu du vétéran, donnait une matinée dansante. Madame la duchesse de Sainte-Terre, par sa famille et par ses alliances, appartenait à la plus ancienne et la plus illustre noblesse de France. Quoique sa fortune fût médiocre et sa maison petite, Madame de Sainte-Terre donnait ainsi chaque printemps 4 ou 5 bals de jour, peu nombreux, mais très élégant et très choisi, dont elle et ses deux jeunes filles faisaient les honneurs avec une grâce parfaite. Monsieur le duc de Sainte-Terre, mort depuis 2 ans, avait eu sous la Restauration la plus haute position. Les 3 fenêtres du salon où l'on dansait s'ouvraient sur un beau jardin. Le temps était magnifique. Entre 2 contredanses, plusieurs personnes, hommes et femmes, se promenaient ou causaient à travers les allées çà et là bordées d'arbustes en fleurs. 4 ou 5 hommes, abrités par un massif de lilas, s'entretenaient de ces 1000 riens dont se composent généralement les conversations mondaines. Parmi ce groupe, 2 personnes méritaient d'attirer l'attention. L'une d'elles, homme de 30 ans environ, déjà obèse, à l'air à la fois suffisant et indolent, dédaigneux, gonflé de soie, à l'œil ouvert et presque éteint, s'appelait Monsieur le comte de Mornant. Son nom avait été prononcé la veille chez le commandant Bernard, lorsqu'Olivier et Gérald évoquaient leurs souvenirs de collège. Monsieur de Mornant occupait, on l'a dit, à la chambre des pairs, un siège héréditaire. L'autre personnage, ami intime du comte, était un homme de 30 ans aussi, de haute taille, maigre, osseux, anguleux, légèrement voûté, déjà chauve. Sa petite tête plate, son œil à fleur de tête, presque toujours légèrement injecté de sang, donnait à sa physionomie un caractère fort analogue à celui du reptile. Il se nommait le baron de Raville. Quoique ses moyens d'existence fussent problématiques, eu égard à l'espèce de luxe qu'il affichait, on recevait le baron dans le meilleur monde, auquel il tenait d'ailleurs par sa naissance. Jamais intrigant, en donnant à cette épithète toutes ses conséquences, des plus basses aux plus audacieuses, jamais intrigant, ne déploya une plus cynique effronterie, une fourbe plus impudente. « Avez-vous vu le lion du bal ?» disait à M. de Mornant l'un des interlocuteurs du groupe dont nous avons parlé. « J'arrive à l'instant, » répondit M. de Mornant. « J'ignore de qui vous voulez parler. »« Et parbleu, du marquis de Maillefort !»« Ce maudit bossu !» s'écria M. de Raville. « Allons, c'est bien à lui. Cette matinée était d'un terne, d'un ennui assommant. Le marquis va égayer un peu tout cela par sa bouffonne présence. » « Que diable peut-on y refaire dans le monde quand on est bâti de la sorte ?» dit M. de Mornant. « Ce pauvre marquis devrait avoir au moins la conscience de sa bosse. »« C'est singulier, » reprit un autre. De temps à autre, le marquis apparaît dans le monde, pendant quelques semaines, et puis soudain, il disparaît. « Je le soupçonne fort d'être manayeur et de venir ainsi de temps à autre écouter le produit de son ingénieuse industrie, » dit M. de Raville. « Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un jour, chose incroyable, inouïe, il m'a prêté au jeu un billet de 1000 francs, que je ne lui rendrai jamais. D'abord, il devait être faux, et puis, cet impertinent bossu m'a dit, en me le prêtant, « Ça m'amusera de vous redemander souvent ces 1000 francs-là, baron. Qu'il soit tranquille, il s'amusera longtemps. » Plaisanterie à part, le marquis est un homme singulier, dit un autre interlocuteur. La vieille marquise de Maillefort, sa mère, lui a laissé une belle fortune, et l'on ne sait ce qu'il en fait, car il vit très modestement. Je l'ai vu autrefois, assez souvent, chez cette pauvre madame de Beauménil. À propos, dit un autre, vous savez qu'on l'a dit à toute extrémité. Madame de Beauménil, certainement. Elle doit être administrée dans la journée. C'est du moins ce qu'on a répondu à madame de Mirecourt qui, en venant ici, s'était arrêtée à la porte de l'hôtel de Beauménil pour avoir des nouvelles. Il faut alors qu'elle ait été inguérissable, car elle a pour médecin le fameux docteur Gasterini. Aussi savant que gourmand, ce qui n'est pas peu dire. Pauvre femme, c'est mourir jeune encore. Et quelle immense fortune aura sa fille, s'écria M. de Mornant. Ce sera la plus riche héritière de France, et orpheline par-dessus le marché. Quel morceau! En disant ces mots, les yeux de M. de Mornant rencontrèrent ceux de son ami de Raville. Tous deux tressaillirent imperceptiblement, comme si une idée subite leur était venue. D'un seul regard, il s'était compris. La plus riche héritière de France? Une orpheline? Et une fortune territoriale encore! S'écrièrent les 3 autres interlocuteurs, avec un naïf accent de convoitise. Puis l'un d'eux reprit, sans remarquer l'échange de regards significatifs qui avait lieu entre M. de Mornant et son ami. « Et quel âge a-t-elle, Mademoiselle de Beauménil ?»« 15 ans à peine, » dit M. de Raville. « Et puis si laide, si chétive, » ajouta-t-il avec intention. « Diable, chétive n'est pas désavantageux, au contraire, » dit l'un des causeurs d'un air judicieux et réfléchi. « Ah, elle est très laide, » reprit un autre en s'adressant à de Raville. « Vous l'avez donc vue ?»« Pas moi, mais une de mes tantes a vu cette petite au couvent du Sacré-Cœur avant que Beauménil l'emmena en Italie, par ordonnance des médecins. Pauvre Beauménil, mourir à Naples d'une chute de cheval. « Et vous dites, mon cher, » reprit l'interlocuteur de M. de Raville, pendant que M. de Mornant semblait de plus en plus pensif, « vous dites que Mademoiselle de Beauménil est fort laide ? Un vrai monstre. Je ne sais pas même si elle ne tombe pas du haut mal, » continua de Raville avec une affectation de dénigrement très marquée, par là-dessus, poitrinaire. Puisqu'après la mort de Beauménil, le médecin qui les avait accompagnés à Naples a déclaré qu'il ne répondrait de rien si Mademoiselle de Beauménil revenait en France. Elle est poitrinaire au dernier degré, vous dis-je, au dernier degré. Une héritière poitrinaire, reprit un autre d'un air à la fois friand et alléché. Mais c'est ce qu'il y a au monde de plus délicat, de plus recherché. Pardieu, je vous comprends, c'est évident cela, reprit de Raville. Mais il faut au moins qu'elle puisse vivre jusqu'à ce qu'on l'épouse. Tandis que très probablement Mademoiselle de Beauménil ne vivra pas, elle est condamnée. Je l'ai entendu dire par Monsieur de La Roche-Aigu, son plus proche parent. Il doit bien savoir puisqu'il hériterait d'elle. Peut-être aussi à cause de cela voit-il tout en beau. Quelle chance pour Madame de La Roche-Aigu, qui aime tant le luxe, les fêtes. Oui, chez les autres. C'est étonnant, reprit un des interlocuteurs. Il me semble que j'avais entendu dire que Mademoiselle de Beauménil ressemblait à sa mère, qui a été une des plus jolies femmes de Paris. Cette héritière est d'une laideur atroce, reprit de Raville. Je vous l'atteste, et je ne sais pas même si elle n'est pas contrefaite. Quant à moi, dit enfin M. de Mornant en sortant de sa rêverie, d'autres personnes m'ont parlé de Mademoiselle de Beauménil comme en parle de Raville. Ah ça! Mais pourquoi sa mère ne l'a-t-elle pas accompagnée en Italie ? Parce que la pauvre femme était déjà atteinte de cette maladie de langueur à laquelle il paraît qu'elle va succomber. L'on dit d'ailleurs qu'elle a eu un affreux chagrin de ne pouvoir suivre sa fille à Naples, et que ce chagrin pourrait bien contribuer à rendre son état désespéré. Il paraîtrait alors, dit un autre, que la cure musicale du docteur Dupont n'a pas eu le succès qu'il espérait. Quelle cure musicale ? Sachant le goût bien connu de Madame de Beauménil pour la musique, le docteur, pour calmer les souffrances de sa malade et la distraire de sa langueur, lui avait conseillé, dit-on, de se faire jouer ou chanter des morceaux d'une musique douce et suave. L'idée n'était pas mauvaise, quoique renouvelée de Saul et de David, dit de Raville. Eh bien, qu'en est-il résulté ? Madame de Beauménil aurait d'abord éprouvé, dit-on, une sorte de distraction, d'adoucissement, mais la maladie a repris le dessus. On dit aussi que la mort cruelle de ce pauvre de Beauménil lui a porté un coup terrible. « Allons donc !» s'écria M. de Mornant en ricanant et haussant les épaules. « Est-ce qu'elle a jamais aimé Beauménil, cette femme-là ? Elle ne l'a épousée que pour ses millions de millions. Et d'ailleurs, étant jeune fille, elle a eu je ne sais combien d'amants. « Somme toute, » reprit M. de Mornant, en gonflant ses joues avec une affectation de dignité méprisante, « Madame de Beauménil est une femme tarée, perdue. » Et malgré la fortune énorme qu'elle laissera, un galant homme ne consentira jamais à épouser la fille d'une pareille mère, une femme déshonorée. Misérable ! S'écria une voix qui, sortant de derrière la touffe de lilas, semblait répondre aux dernières paroles de M. de Mornant. Il y eut d'abord un moment de silence et de surprise générale. Puis M. de Mornant, devenu pourpre de colère, fit rapidement quelques pas afin de contourner le massif. Il ne trouva personne. L'allée à cet endroit formant un coude assez brusque, la personne invisible qui venait de prononcer le mot de misérable avait pu facilement disparaître. « Il n'y a de misérable, » dit à voix haute M. de Mornant, en revenant occuper sa place, « il n'y a de misérable que les gens qui osent dire des injures sans oser se montrer. » Ce singulier incident venait à peine d'avoir lieu, lorsque le son de l'orchestre, se faisant entendre, ramena les promeneurs du côté du salon. Monsieur de Mornant resta seul avec de Raville. Celui-ci lui dit « On t'a appelé misérable, on n'a pas osé paraître, c'est bien, n'en parlons plus. Mais m'as-tu compris ?»«
À merveille.
Cette idée m'est venue comme à toi, subitement, chose étrange.
Pendant quelques instants, je suis resté comme ébloui,
fasciné par cette pensée. Plus de 3 millions de rentes, hein ? Quel ministre incorruptible tu ferais ? Tais-toi, c'est à devenir fou. » Cette conversation intime fut suspendue par l'arrivée d'un tiers importun qui, s'adressant à M. de Mornant, lui dit, avec la plus exquise politesse,
« Monsieur, voulez-vous me faire la grâce de me servir de vis-à-vis ?»
À cette demande, M. de Mornant recula d'un pas, sans répondre un mot, tant sa surprise était grande, surprise concevable, si l'on songe que le personnage qui venait demander à M. de Mornant de lui servir de vis-à-vis était le marquis de Maillefort, ce singulier bossu dont on a déjà plusieurs fois parlé. Un autre sentiment que celui de la surprise empêchait aussi M. de Mornant de répondre tout d'abord à l'étrange proposition du marquis, car, dans la voix mâle, vibrante de ce dernier, M. de Mornant crut un instant reconnaître la voix du personnage invisible qui, quelques moments auparavant, l'avait traité de misérable lorsqu'il s'était exprimé si durement sur le compte de Madame de Beauménil. Le marquis de Maillefort, ne paraissant pas s'apercevoir du silence et de l'expression de surprise désobligeante avec lequel M. de Mornant accueillait sa proposition, reprit du même ton de parfaite politesse.
« Monsieur, voulez-vous me faire la grâce de me servir de vis-à-vis pour la prochaine contredanse ?»
À cette demande réitérée, demande d'ailleurs étrange, on le répète, si l'on songe à la tournure de ce danseur en expectative, M. de Mornant répondit en dissimulant à peine son envie de rire.
« Vous servir de vis-à-vis à vous, monsieur. »«
Oui, monsieur, » reprit le marquis de l'air du monde le plus naïf.
« Mais, monsieur, ce que vous me demandez là, » reprit M. de Mornant,
« est, permettez-moi de vous le dire, fort délicat. »«
Et fort dangereux, mon cher marquis, » ajouta le baron de Raville, en ricanant à froid selon son habitude.
« Quant à vous, baron, » lui répondit en souriant M. de Maillefort,
« je pourrais vous faire une question non moins délicate et peut-être plus dangereuse. Quand me rendrez-vous les 1000 francs que j'ai eu le bonheur de vous prêter au jeu ?»«
Vous êtes bien curieux, marquis. »«
Allons, baron, » répondit le bossu, « ne traitez donc pas les défunts bons mots de M. de Talleyrand comme vous traitez les billets de 1000 francs. »«
Qu'entendez-vous par là, marquis ?»«
Je veux dire, baron, que les uns ne vous coûtent pas plus à mettre en circulation que les autres. »
M. de Raville se mordit les lèvres et reprit.
« Cette explication ne me satisfait pas précisément, monsieur le marquis. »
« Vous avez le droit d'être difficile en fait d'explication, c'est vrai, baron, » répondit le bossu avec un accent de hautain persiflage.
« Mais vous n'avez pas le droit d'être indiscret, et vous l'êtes beaucoup dans ce moment.
J'avais l'honneur de causer avec M. de Mornant, et vous venez vous jeter à la traverse de notre entretien, c'est très désagréable. » Puis, s'adressant à M. de Mornant, le bossu reprit
« Vous avez donc la bonté, monsieur, de répondre à la demande que je vous faisais de me servir de vis-à-vis, que c'était fort délicat, je crois. »«
Oui, monsieur, » reprit M. de Mornant, sérieusement cette fois, car un pressentiment lui disait que la singulière proposition du bossu n'était qu'un prétexte, et plus il écoutait sa voix, plus il croyait reconnaître celle qu'il avait traitée de misérable.
« Oui, monsieur, » ajouta-t-il donc avec une assurance mêlée de hauteur. « J'ai dit qu'il était fort délicat de vous servir de vis-à-vis. »«
Et pourrais-je, monsieur, sans trop de curiosité, vous demander pourquoi ?»«
Mais, monsieur, » répondit M. de Mornant en hésitant, « parce que je trouve qu'il est singulier de... »
Et comme M. de Mornant n'en achevait pas.
« Monsieur, lui dit allègrement le marquis, j'ai une excellente habitude. »
« Laquelle, monsieur ?»«
Ayant l'inconvénient d'être bossu et conséquemment d'être fort ridicule, j'ai pris le parti de me réserver exclusivement le droit de me moquer de ma bosse. Et comme j'ai la prétention de m'acquitter de ces plaisanteries à la satisfaction générale, excusez, monsieur, cette fatuité, je ne permets pas que l'on fasse très mal ce que je fais très bien. »«
Monsieur, dit vivement M. de Mornant, je... »«
Permettez-moi un exemple. »
dit toujours très allègrement le marquis.
Je viens vous demander de me faire l'honneur de me servir de vis-à-vis. » Eh bien, au lieu de me répondre poliment « Oui, monsieur » ou « Non, monsieur », vous me répondez en étouffant de rire « C'est très délicat de vous servir de vis-à-vis. » Et quand je vous prie en grâce de compléter votre plaisanterie, sans doute suscitée par ma bosse, vous balbutiez. Vous ne trouvez rien du tout. C'est déplorable. « Mais, monsieur, » s'écria monsieur de Mornant, « je veux... Mais, monsieur, » reprit le bossu, en interrompant de nouveau son interlocuteur, « si, au lieu d'être poli, vous vouliez être plaisant, que diable, du moins il fallait l'être, me dire quelque chose d'assez drôlement impertinent, ceci, par exemple. Monsieur de Maillefort, j'ai l'horreur des supplices, et je n'aurai pas la force d'assister à celui de votre danseuse. » Ou bien encore ceci, « Monsieur de Maillefort, j'ai beaucoup d'amour-propre, et je ne veux pas m'exposer à avoir le désavantage avec vous dans le dos à dos. Vous voyez donc bien, mon cher monsieur, » reprit le bossu avec un redoublement de jovialité, que, me moquant de moi-même mieux que personne, j'ai raison de ne pas tolérer que l'on fasse grossièrement, maladroitement, ce que je fais de bonne grâce. Vous dites, monsieur, reprit monsieur de Mornant avec impatience, que vous ne tolérez pas. Allons donc, Mornant, c'est une plaisanterie, s'écria monsieur de Raville. Et vous, marquis, vous avez trop d'esprit pour... Il ne s'agit pas de cela, reprit monsieur de Mornant. Monsieur dit qu'il ne tolérait pas que l'on se moquât de moi, dit le marquis. Non, pardieu, monsieur, je ne le tolère pas, je le répète. Mais encore une fois, marquis, dit de Raville, Mornant n'a pas eu un instant la pensée de se moquer de vous. Vrai, baron? Parbleu! Bien vrai, baron? Mais certainement. Alors, reprit le marquis, que monsieur me fasse la grâce de m'expliquer ce qu'il entendait par cette réponse à ma demande, c'est très délicat. Mais c'est tout simple, je vais... Mon cher de Raville, dit monsieur de Mornant en interrompant son ami d'une voix ferme, tu vas beaucoup trop loin. Puisque monsieur de Maillefort procède par sarcasme, par menace, je juge convenable de lui refuser toute explication. Monsieur de Maillefort peut donner à mes paroles le sens qui lui conviendra. Oh oh, donner un sens à vos paroles, dit le bossu souriant. Je ne me charge pas d'une telle tâche, c'est l'affaire de vos honorables collègues de la Chambre des Pairs. Lorsque vous leur débitez un des superbes discours que vous avez la particularité de comprendre. Finissons, monsieur, dit monsieur de Mornant, poussé à bout. Admettez mes paroles aussi insolentes que possible. Mais tu es fou, s'écria de Raville. Tout ceci est ou sera d'un ridicule achevé. Vous avez raison, mon pauvre baron, dit le marquis d'un air naïf et contrit. Cela peut devenir d'un ridicule énorme, effrayant. Pour monsieur. Aussi, voyez comme je suis bon prince, je me contenterai des excuses suivantes, faites à haute voix, par monsieur de Mornant devant trois ou quatre personnes à mon choix. Monsieur le marquis de Maillefort, je vous demande très humblement et très honteusement pardon d'avoir osé. Assez, monsieur, s'écria monsieur de Mornant. Vous me supposez donc bien lâche ou bien stupide? Vrai? Vous me refusez cette réparation? Dit le marquis, en poussant un gros soupir d'un air railleur. Vous me la refusez là, positivement? Eh oui, monsieur, positivement, s'écria monsieur de Mornant, très positivement. Alors, monsieur, dit le marquis avec autant d'aisance que de parfaite courtoisie, je me crois obligé de terminer cet entretien ainsi que je l'ai commencé, et d'avoir de nouveau, monsieur, l'honneur de vous dire, voulez-vous me faire la grâce de me servir de vis-à-vis? Comment, monsieur, votre vis-à-vis? Dit monsieur de Mornant, ébahi. Mon vis-à-vis dans une contredanse à deux, ajouta le bossu avec un geste expressif. Vous comprenez? Un duel, avec vous, s'écria monsieur de Mornant, qui, dans le premier emportement de la colère, avait oublié la position exceptionnelle du bossu, et qui seulement alors songeait à tout ce qu'il pouvait y avoir de ridicule pour lui dans une pareille rencontre. Aussi répéta-t-il. Un duel avec vous, monsieur, mais... « Allez-vous me répondre, comme tout à l'heure ?» reprit gaiement le bossu en l'interrompant, « que cet autre vis-à-vis est trop délicat ou trop dangereux, comme disait votre ami de Raville ?»« Non, monsieur, je ne trouverai pas cela trop dangereux, mais ce serait par trop ridicule. »« Eh mon Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure à cet honnête monsieur de Raville, ce sera d'un ridicule énorme, effrayant pour vous, mon pauvre monsieur, mais que voulez-vous ?» « En vérité, messieurs, s'écria de Raville, Je ne souffrirai jamais que... » Puis, avisant Gérald de Senneterre qui passait dans le jardin, il ajouta « Voici justement le duc de Senneterre, le fils de la maison. Il va se joindre à moi pour terminer cette folle querelle. » « Pardieu, messieurs, reprit le bossu, le duc arrive à merveille. » Et s'adressant au jeune homme, il lui dit « Gérald, mon cher ami, venez à notre secours. »« Qu'y a-t-il, monsieur le marquis ?» répondit Gérald avec une expression d'affectueuse déférence. « Vous avez des cigares ?»« Excellent, monsieur le marquis. »« Eh bien, mon cher Gérald, ces deux messieurs et moi, nous mourrons d'envie de fumer. » « Allons faire cette petite débauche dans votre appartement. »« À merveille, » répondit gaiement Gérald. « Je n'ai aucune invitation pour cette contredanse. Je puis donc disposer d'un quart d'heure. »« C'est autant de temps qu'il nous en faudra, » dit le bossu, en jetant un regard significatif à de Mornant et à de Raville, qui néanmoins ne comprirent pas davantage où le marquis en voulait arriver. « Venez-vous, messieurs, » ajouta le bossu, en prenant le bras de Gérald et précédant le ministre en herbe et son ami. En quelques secondes, les quatre personnages arrivèrent dans l'appartement de Gérald, situé au second étage de la maison de sa mère, et composé de trois pièces dont l'une était fort grande. Le jeune duc ayant poliment prié messieurs de Mornant et de Raville de passer les premiers, M. de Maillefort dit à Gérald, en donnant un tour de clé à la serrure de la porte et en mettant la clé dans sa poche, « Vous vous permettez, mon cher ami ?»« Pourquoi donc fermer cette porte à double tour, monsieur le marquis ?» lui dit Gérald, très surpris. « Afin de n'être pas dérangé, » répondit mystérieusement le bossu, « et de pouvoir fumer tranquillement. »« Diable ! Vous êtes homme de précaution, monsieur le marquis, » dit Gérald en riant. Et il introduisit messieurs de Mornant et de Raville dans la pièce du fond, qui, beaucoup plus grande que les deux autres, servait de salon et de cabinet au jeune duc. À l'une des boiseries de cette pièce, on voyait une sorte de large écusson recouvert de velours rouge, sur lequel se détachait une panoplie d'armes de guerre, de chasse et de combat.